VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 22 novembre 2017. Emmerson Mnangagwa de retour au Zimbabwe où il doit succéder à Robert Mugabe.
Emmerson Mnangagwa est vraiment un pilier, une pièce clé de la guerre de libération du Zimbabwe.
250 migrants camerounais victimes de trafic d'êtres humains en Libye sont rentrés au Cameroun la nuit dernière. 30 personnes tuées au Nigeria dans des attaques contre un village d'éleveurs. En Guinée, le parquet demande l'arrêt de la grève dans l'éducation. Ex-Yougoslavie, Ratko Mladic condamné à perpétuité pour génocide, crime de guerre et contre l'humanité. Et ne manquez pas la Minute Éco et les sports, soirée de Ligue des Champions ce soir en Europe. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa est rentré de son exil aujourd'hui. L'ancien vice-président déchu doit succéder à Robert Mugabe. Monsieur Mnangagwa a rencontré le bureau politique de la ZANU-PF et a salué le début d'une nouvelle démocratie dans son premier discours depuis le début de la crise. Il a appelé tous les patriotes de son pays à se réunir et à travailler ensemble selon ses termes. Il devrait être investi vendredi à Harare. Eric Manirakiza nous en dit plus.
La ZANU-PF a propulsé dimanche Emmerson Dambudzo Mnangagwa à la tête du parti et l'a désigné candidat à la présidentielle de 2018 pour remplacer Robert Mugabe. Il avait été évincé de la vice-présidence le 6 novembre à la suite d'une violente campagne de dénigrement de Grace Mugabe, l'ex-première dame. Cette expulsion a provoqué le coup de force de l'armée qui a abouti à la chute du plus vieux chef de l'État de la planète, ceci a enterré les 37 ans de l'ère Mugabe. De nombreux Zimbabwéens attendent le redressement d'une économie rendue exsangue par les réformes dévastatrices de son prédécesseur. L'activité tourne au ralenti, l'argent manque, le chômage touche 90% de la population et le spectre de l'hyperinflation rôde à nouveau. Par contre, certains ne partagent pas l'euphorie des dernières heures et redoutent même qu'elle ne tourne à la gueule de bois. Monsieur Mnangagwa est un héros de la guerre d'indépendance et plusieurs fois ministre. Les activistes et simples citoyens estiment que le régime Mugabe demeure. Ils considèrent que son arrivée au pouvoir n'augure rien de bon pour les droits de l'homme dans le pays.
En Guinée, 4 responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs ont été présentés devant le procureur du tribunal de première instance de Kaloum. Le parquet guinéen leur a demandé l'arrêt de la grève des enseignants, lancée le 13 novembre, émaillée de manifestations violentes. Le calme est revenu à Conakry après 2 jours de heurts entre jeunes manifestants et forces de l'ordre qui ont coûté la vie à 2 adolescents. Au Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées dans des attaques contre des villages d'éleveurs dans l'état d'Adamawa. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le porte-parole de la police de l'Adamawa, Othman Aboubakar, a déclaré que des agriculteurs de l'ethnie chrétienne Batiama ont attaqué lundi 4 villages de éleveurs peuls musulmans dans la région de Nouman, tuant principalement des femmes et des enfants. Monsieur Aboubakar a expliqué qu'ils ont jusqu'ici récupéré 30 corps dans les villages touchés, mais le bilan n'est pas définitif. Les équipes de secours continuent de fouiller la brousse environnante à la recherche des corps. La plupart des hommes étaient absents, ils étaient soit en brousse ou au marché quand les villages ont été attaqués. Le vice-gouverneur s'est rendu dans le village et une enquête a été ouverte pour comprendre les motifs de l'attaque et traduire les responsables en justice. La ceinture centrale du Nigeria proche de l'Adamawa est régulièrement le théâtre d'affrontements sanglants entre agriculteurs chrétiens et éleveurs peuls musulmans. Au départ, le conflit portait surtout sur l'accès à la terre et à l'eau et des luttes de pouvoir locales.
Et au moins 3 personnes ont été tuées mardi dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans le sud du Niger, a indiqué mercredi la radio d'État nigérienne. Selon un bilan provisoire, ces affrontements dans un hameau de la région de Maradi ont fait 3 morts, dont un chef de village. 12 personnes sont portées disparues et 24 ont été arrêtées, a précisé la radio. 250 migrants camerounais victimes de trafic humain en Libye sont rentrés au Cameroun la nuit dernière. Des femmes dont 9 enceintes et des hommes jeunes pour la plupart sont arrivés à l'aéroport de Yaoundé à bord d'un avion spécial affrété par l'OIM. Plusieurs d'entre eux ont affirmé qu'ils vivaient dans des prisons de très mauvaises conditions. L'opposition en RDC a reporté de 2 jours la marche contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila prévue le 28 novembre à Kinshasa afin d'éviter toute confrontation avec la majorité. Les deux camps envisageaient une manifestation le même jour pour soutenir ou dénoncer le calendrier électoral qui prolonge de fait d'un an le pouvoir de Kabila. D'autre part, la journée ville morte ce mercredi dans le sud Kivu a été diversement observée. La société civile demande le respect du calendrier électoral. L'armée égyptienne a annoncé sur Facebook avoir détruit 10 véhicules chargés d'armes et de munitions à la frontière avec la Libye. Les forces aériennes ont porté un nouveau coup dur aux contrebandiers et infiltrés à travers la frontière, les empêchant d'introduire clandestinement ces armes et munitions dans le pays, s'est félicité le porte-parole de l'armée Tamer El-Refai.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a reçu ses homologues turcs et iraniens à Sotchi et les trois sont tombés d'accord pour la tenue d'un congrès entre le régime syrien et l'opposition. Eddy Issango nous en dit plus.
Vladimir Poutine a estimé à l'issue de la rencontre à Sotchi avec ses homologues turcs Recep Tayyip Erdogan et iranien Hassan Rouhani qu'un congrès réunissant en Russie, régime et opposition syrien sera un stimulant pour le processus de Genève. Les trois chefs d'État se sont mis d'accord sur la tenue prochaine d'un tel congrès. Une telle rencontre aurait pour ambition notamment de donner une nouvelle constitution à la Syrie ou du moins une issue politique au conflit qui déchire les pays depuis 2011. Mais les obstacles demeurent. Moscou veut inviter les Kurdes de Syrie à la table des négociations. La Turquie refuse catégoriquement. Ces sommets marquent les débuts d'une nouvelle séquence diplomatique avec Vladimir Poutine à la manœuvre. L'initiative diplomatique a débuté lundi avec la visite surprise de Bachar el-Assad à Sotchi. Elle s'est poursuivie mardi avec un entretien téléphonique avec le président russe et Donald Trump. Vladimir Poutine accélère la cadence alors que vont débuter à Genève de nouvelles négociations intersyriennes.
L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, a été condamné à la prison à perpétuité par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Abdourahman Dia nous en dit plus.
Surnommé le boucher des Balkans, Ratko Mladic a été reconnu coupable de génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Il est considéré comme le troisième architecte de l'épuration ethnique durant le conflit intercommunautaire de 1992 à 1995 qui a fait plus de 100 000 morts et 2 200 000 déplacés dans l'ex-Yougoslavie. Le haut commissaire aux droits de l'homme a salué cette sentence. Pour Zaid Radal Hussein, Mladic est la quintessence du mal qui a présidé à certains des crimes les plus sombres survenus en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour son fils Darko, cette peine est injuste et contraire aux faits, promettant de faire appel pour prouver que ce jugement est faux. Ratko Mladic se considérait comme le héros du peuple serbe, mais son nom restera associé aux crimes de la guerre de Bosnie, du siège de Sarajevo et au massacre de Srebrenica pour lesquels il a été condamné. Il a été arrêté en 2011 après 16 ans de cabale.
Après cette annonce, les États-Unis ont appelé les pays et les peuples des Balkans à travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur. Washington soutient le travail important du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et respecte ses jugements, a déclaré le Département d'État américain. Au lendemain de son retour au Liban, le Premier ministre Saad Hariri a annoncé qu'il suspendait sa démission en attendant des consultations sur des dossiers épineux, dont l'implication dans des conflits régionaux du Hezbollah. S'exprimant dans une brève allocution télévisée, il a appelé au dialogue politique. M. Hariri n'a pas évoqué les accusations du président Michel Aoun, selon lesquelles il avait été retenu en otage en Arabie Saoudite. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Ekia Badou.
La valeur de la production d'or au Mali a été revue à la hausse au titre de l'année 2016. Elle passe ainsi de 247 milliards à 280 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Mines, Tiémoko Sangaré, à l'ouverture de la 7e édition des journées minières et pétrolières du Mali. Par ailleurs, le pays dispose d'un potentiel minier et pétrolier non négligeable, selon le ministre qui précise que seulement 3 des 41 blocs pétroliers détectés dans le pays font actuellement l'objet d'exploitation. L'Office national d'échange du Maroc et la Banque centrale ont interdit toute transaction liée aux monnaies virtuelles, estimant que les crypto-monnaies sont occultes. Cette décision intervient quelques jours seulement après que la société de services digitaux NTDS a annoncé son choix d'intégrer le Bitcoin comme moyen de paiement pour la première fois dans le royaume chérifien. Les monnaies virtuelles peuvent être liées à des activités illégales sur le web, en particulier l'achat et la vente de drogue, d'armes et de demandes de rançon pour restituer des données piratées. Enfin, ici aux États-Unis, une société de l'homme d'affaires Elon Musk a demandé un permis pour creuser un tunnel sous Los Angeles. Objectif, contourner les embouteillages de la mégalopole californienne. L'homme d'affaires né en Afrique du Sud s'est notoirement plaint des embouteillages pour aller de sa demeure de Bel Air jusqu'à ses bureaux situés à côté de l'aéroport de Los Angeles. Un trajet qui peut prendre plus d'une heure et demie. Sa solution, un tunnel qui permettrait de faire ce trajet en quelques minutes.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Suite de cette cinquième journée de Ligue des Champions ce soir en Europe.
Avec 4 victoires en 4 matchs, Manchester United est quasiment assuré d'aller en 8e de finale. L'équipe de José Mourinho peut se contenter d'un simple match nul à Bâle pour se qualifier et terminer en tête de son groupe. Le CSKA Moscou reçoit de son côté le Benfica. Déjà qualifié pour les 8e de finale, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich n'ont plus qu'à se battre pour la première place. Les Parisiens sont en tête du groupe, ils reçoivent le Celtic Glasgow alors que le Bayern se rend à Anderlecht. Méconnaissable cette saison, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann a réalisé un début de campagne catastrophique. À l'image de ces deux matchs nuls contre Karabakh, les Madrilènes n'ont plus le droit à l'erreur avant de recevoir le leader de la poussée, l'AS Rome, en tête avec 8 points. Chelsea se rend en Azerbaïdjan pour affronter Karabakh. Et puis la Juve n'aborde pas la réception du Barça dans les meilleures conditions. Le Sporting Portugal accueille l'Olympiakos.
Le Real se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Le Real s'est largement imposé 6-0 à Nicosie contre la Poel avec notamment un doublé de Benzema et un doublé de Ronaldo. Le club madrilène est qualifié pour les huitièmes de finale, au contraire de Dortmund qui a perdu contre Tottenham. A noter que Aubameyang, le Gabonais, avait ouvert le score pour les jaunes et noirs. Mené 3-0 à la mi-temps, le FC Séville a arraché un match nul inespéré contre Liverpool. Rien n'est joué dans ce groupe E pour la qualification en huitièmes de finale. A noter que le Sénégalais Sadio Mané avait inscrit le deuxième but des Reds. Le Spartak Moscou n'a pas profité de la réception de la faible équipe de Maribor pour s'imposer. Match nul 1 but partout. Large vainqueur de Donetsk 3-0, Naples a encore une chance de se qualifier. Manchester City s'est assuré la première place du groupe en battant Feyenoord 1-0. Le Besiktas s'est qualifié pour la première fois de son histoire en huitième de finale après son match nul face à Porto, un but partout. Et puis élimination de Monaco battu 4-1 par Leipzig. A noter le but du Guinéen Naby Keita.
Recul du Cameroun au classement de la CAF.
Oui, le Cameroun ne pourra engager que 2 clubs dans les compétitions africaines l'année prochaine. D'après le nouveau classement publié par la CAF, pour la première fois depuis 2004, le Cameroun est sorti du top 12 qui garantit 2 représentants dans chaque compétition, soit 4 clubs au total. En Ligue des Champions pour 2018, il n'y aura que Heading Sport Lekki et en Coupe CAF, ce sera le vainqueur de la Coupe du Cameroun, New Star de Douala ou l'UMS Loum.
On termine par le Nigeria et les affaires de primes.
Le Nigeria qui versera 2,4 millions de dollars aux Super Eagles en guise de primes de qualification pour le Mondial 2018. Comme en 2014 au Brésil, ce montant représente 30% de la prime allouée au Nigeria après sa qualification par la FIFA. On se souvient qu'en 2014, lors de la Coupe du Monde, les Super Eagles avaient volontairement fait l'impasse sur une séance d'entraînement pour protester contre le non-versement d'une prime de qualification. Cela avait obligé le ministre des Sports à l'époque à se rendre en urgence au Brésil à bord d'un jet privé avec près de 4 millions de dollars d'argent liquide.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Au Zimbabwe, l'ancien vice-président déchu Emmerson Mnangagwa doit prendre officiellement les rênes du pays vendredi. Il est rentré d'exil d'Afrique du Sud ce mercredi. Surnommé le crocodile, le nouvel homme fort du Zimbabwe est un héros de la guerre d'indépendance et il a été plusieurs fois ministre avant d'être limogé par Robert Mugabe le 6 novembre. Pour un portrait d'Emmerson Mnangagwa, Eric Manirakiza a joint le professeur André Thomashausen à Pretoria, en Afrique du Sud.
Emmerson Mnangagwa est vraiment un pilier, une pièce clé de la guerre de libération du Zimbabwe. Né en 1962, déjà comme étudiant, il a commencé à participer dans des activités d'opposition qui lui ont apporté un long terme d'emprisonnement sous le régime de Ian Smith, le régime apartheid de la Rhodésie. Et c'est à partir de la prison qu'il a mené des études. Il a même complété une licence en droit à travers l'université de correspondance de Londres, University of London. Et il a su commencer à jouer un rôle clé dans les jeunes partis d'opposition du Zimbabwe, du futur Zimbabwe. À partir de 1980, il a voyagé beaucoup. Il a fréquenté aussi des cours de formation militaire et d'intelligence en Chine et en Égypte. C'est à partir de là qu'il a formé un groupe de résistants qu'il appelait le groupe Crocodile, parce que sa stratégie était toujours d'attendre pour la meilleure opportunité d'attaquer, pour combattre son ennemi, le gouvernement, à travers les actes de sabotage.
Est-ce que c'est quelqu'un qui a les mains propres?
Mnangagwa est un des personnages au Zimbabwe avec un profil assez acceptable sur le point de vue de la corruption. Il a participé depuis l'indépendance du pays dans les opérations du déminage dans une société privée. Et là, il a fait peut-être une petite fortune, mais au-delà de ses intérêts initials ou bien des intérêts de fournisseurs aux forces de sécurité. Il n'a par exemple pas participé dans le pillage des mines de diamants au Zimbabwe, qui vraiment étaient scandaleuses. Mnangagwa, il a trop d'autorité, il est trop respecté, il n'a pas tellement besoin de l'argent.
Les activistes, par exemple, disent que son arrivée au pouvoir n'augure rien de bon en matière des droits de l'homme.
Il n'est certainement pas un champion des droits de l'homme. C'est un homme dur, un homme de la guerre de libération, confiant de la Chine, un représentant des intérêts chinois même. Pour lui, les droits de l'homme ont une fonctionnalité dans l'État, dans le sens que c'est nécessaire de construire une inclusion de la population à travers les élections, à travers la représentativité du gouvernement, mais il n'acceptera pas une obstruction de sa politique sur la base des droits de l'homme classiques européens. Et il était un des architectes de la répression de l'opposition dans le Matabele Land dans l'année 2000, où il y a eu vraiment des centaines de milliers de victimes.
C'était André Thomashausen, professeur à l'Institut de droit international et comparé à Pretoria en Afrique du Sud.
Après 37 années à la tête du Zimbabwe, Robert Mugabe démissionne. Poussé vers la sortie par l'armée et par son propre parti après une semaine de crise, il a envoyé ce mardi 21 novembre une lettre au président de l'Assemblée nationale qu'il a lue devant les députés. Son ancien vice-président devrait assurer l'intérim dès vendredi. Quel écho de cette démission en Afrique? Comment l'avenir du Zimbabwe se dessine-t-il désormais? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Eki Abadou et ses invités.
Au Cameroun, l'opinion publique s'est appropriée le sujet de la démission de Robert Mugabe. Et pour cause, le président camerounais Paul Biya cumule 35 ans au pouvoir, à peine deux de moins que Robert Mugabe. Dans les rues de Yaoundé ce matin, dans la presse et les réseaux sociaux, la transposition du cas Mugabe au Cameroun est évidente, comme l'a constaté notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julentap.
Après la démission de Robert Mugabe, certains Camerounais entrevoient aussi un probable scénario pour leur président. Sur les réseaux sociaux, les avis sont sans équivoque là-dessus. Des réactions qui ne surprennent guère Serge Aimé Bikoy, sociologue, enseignant à l'Institut Scientifique Supérieur à Yaoundé.
Dans l'imaginaire individuel et collectif, il y a véritablement ce signe que l'on voudrait également générer au Cameroun. Que lorsque quelqu'un a fait 30, 32, 33, 34, 35 ans au pouvoir, il y a des signes de lassitude qui sont davantage constatés. Et ça incite véritablement le peuple qui est aujourd'hui renseigné sur ce qui se passe ailleurs, de pouvoir voir comment ça peut également être théâtralisé ici au Cameroun.
Le Cameroun si proche du Zimbabwe, Paul Biya, démissionnaire comme Mugabe, tout le monde ne partage pas cet avis. À chaque nation son histoire, soutient Jean-Baptiste, un jeune militant du parti au pouvoir.
Le Zimbabwe a ses réalités, le Cameroun a également sa part des réalités. Paul Biya du Cameroun n'est pas Robert Mugabe. La femme du président, Paul Biya, n'est pas la femme de Robert Mugabe. Au Cameroun, l'armée ne s'implique pas dans les histoires politiques.
Mais sur les chaînes de radio urbaine à Yaoundé ce jour, la démission de Robert Mugabe déchaîne les passions. Illustration avec ce programme interactif sur Magic FM à Yaoundé.
Nous avons à la tête de nos États des petits despotes qui organisent des pseudo-élections pour se cramponner au pouvoir. Dans un pays où on dit qu'un président a été élu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, c'est tout sauf une élection.
Au marché central de Yaoundé, le départ de Mugabe après 37 ans de règne alimente les conversations auprès de commerçants qui s'intéressent à la politique. Et chacun y va de son inspiration.
D'autres, ils doivent prendre l'exemple de celui-là qui était le plus vieux au pouvoir.
Comme qui, par exemple, selon vous?
On ne cite pas les contemporains.
Que tout le monde installe dans ton pays la démocratie 5 ans renouvelable une fois. Si tu as fait des 5 ans, si tu n'as pas bien géré, on te met à côté.
Au cours d'une conférence de presse en juillet 2015 au Palais de l'Unité à Yaoundé, lors de la visite de François Hollande au Cameroun, Paul Biya semblait narguer ses détracteurs sur sa longévité au pouvoir.
Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut.
Le 6 novembre dernier, cela faisait 35 ans que Paul Biya accédait au pouvoir et personne ne sait si, à 86 ans, il se présentera ou pas à la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2018. Yaoundé, Emmanuel Jolunta, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les restes de l'Australopithèque Abel, un hominidé vieux de 3,5 millions d'années, sont de retour au Tchad après avoir été étudiés pendant 4 ans en France. Qui est Abel et quel est l'aboutissement de ses recherches ? Pour un élément de réponse, Morgane Guiriec a joint Mahmoud Youssef Kayar, directeur général du Centre national de recherche pour le développement N'Djamena.
Abel, c'est un fossile découvert au Tchad, dans la région de Korotoro, le désert du Tchad.
Les restes de l'Australopithèque Abel sont de retour au Tchad. Qu'ont apporté les recherches en France ?
En 1995, Brunet a découvert une partie du mandibule d'Abel. Le professeur Lucus, un Tchadien, en 2012, ils ont découvert dans la même place le reste qui vient compléter maintenant la mandibule. Ils ont bien fait ressortir que ça, c'est la suite logique de notre mandibule d'Abel. Maintenant, le professeur Brunet prend encore d'autres échantillons. Il partira, il va les étudier parce que là-bas, il y a des canards d'un très, très haut niveau.
Abel hein, est vieux de 3,5 millions d'années. Comment est-ce qu'il vivait à cette époque?
Je ne pense pas qu'il lui faut beaucoup de choses pour vivre. C'est le premier hominidé que nous avons trouvé. Et les hominidés se nourrissent à peu près comme les singes, un peu de la viande, un peu de verdure. Ils chassent, ils font utiliser ses mains. Ça, c'est les éléments que nous sommes en train de chercher maintenant pour prouver que ces hominidés sont intelligents.
Abel est plus âgé que la fameuse Lucie découverte en Éthiopie.
Oui, maintenant, il n'y a pas de doute. Abel fait 3 millions et demi, mais Toumaï, il fait 7 millions d'années. Et il est découvert au Tchad. Et Toumaï est le plus ancien hominidé qui fait 7 millions Or que Lucie fait que 3 millions d'années.
Abel, vieux de 3 millions d'années et demi. Toumaï, on est carrément à 7 millions. Et les deux ont été découverts au Tchad. Ça en dit long quand même sur au la Tchad. Région en matière d'histoire.
Effectivement. Toumaï est le plus vieux hominidé. Donc le Tchad, c'est le berceau de l'humanité.
Et pourquoi le Tchad? Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Parce que le lac Tchad s'étend sur 2 millions et demi de kilomètres carrés. Le lac Tchad, toute la civilisation du monde en ces temps, jusqu'à des années, des milliers et des milliers d'années, on peut dire jusqu'à des millions d'années, du lac Tchad jusqu'au Nil, c'était les coins les plus favorables. Et l'environnement était propice pour que l'humanité avancerait normalement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le ministère américain de la Sécurité intérieure a annoncé lundi l'abrogation du statut de protection temporaire pour les Haïtiens arrivés illégalement aux États-Unis depuis le tremblement de terre dévastateur de 2010. La décision ouvre la porte à plusieurs expulsions à partir de juillet 2019. Arzuma Compaoré a joint maître Ralph François, avocat au barreau de la Floride, expert en immigration.
Le TPS, c'est ce qu'on appelle un statut temporaire protégé. Et la plupart de ces immigrants, ce sont peut-être des Haïtiens qui sont rentrés aux États-Unis légalement avec un visa. Ce sont également des Haïtiens qui sont rentrés aux États-Unis qu'on avait fait rentrer tout de suite après la catastrophe du 12 janvier 2010. Donc, il y a un volume d'Haïtiens qui était déjà là sur visa légalement aux États-Unis que lorsque, après la catastrophe, et le gouvernement américain a jugé nécessaire, c'était le gouvernement de M. Obama, de leur offrir un statut temporaire protégé. Donc ce statut depuis 2010, maintenant va prendre fin en juillet 2019. Cette nouvelle peut créer quand même une certaine panique, mais cependant, dans l'ensemble, ces 18 mois doivent être utilisés à bon escient pour ces personnes concernées pour qu'ils puissent s'arranger et s'organiser.
La nature même de cette mesure précise qu'elle est temporaire. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose qui était prévisible?
Il était prévisible que M. Trump aurait terminé ses efforts au bon an. Et que je pense, au niveau de la communauté haïtienne, ces 18 mois, c'est quand même 18 mois de sursis qu'on pourrait utiliser. C'est quand même une bonne chose dans une certaine mesure. Le TPS, c'est un acte de l'exécutif, c'est comme un décret. Donc, le Congrès américain pourrait venir avec une certaine loi, ou bien ce qu'on appelle aux États-Unis un rider. C'est-à-dire qu'il y a M. Trump qui essaie de pousser la loi sur la fiscalité. Une branche du Congrès pourrait quand même inclure des aspects de l'immigration dans cette loi de fiscalité et donner quand même un soulagement, non seulement aux Haïtiens, mais également à un nombre imposant d'immigrants.
Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, le sénateur républicain Marco Rubio avait rappelé que les transferts d'argent de la communauté haïtienne contribuent à une hauteur de 25% du PIB de l'île. Qu'est-ce que cela va représenter d'avoir ces 60 000 Haïtiens retournés chez eux?
Et ces 50 000 Haïtiens ne vont pas retourner. Bon, il faut être clair, ils ne vont pas retourner. Et comme je vous l'ai dit et avant, et parmi ces 50 000 Haïtiens, nombreux se sont déjà arrangés pour avoir un statut définitif. Et pendant ces 18 mois, ils vont maintenant se mobiliser et faire le nécessaire pour arranger leur statut. Donc, à ce niveau-là, en termes de chiffres, je ne peux pas le dire, mais cependant, la tendance, c'est quand même s'arranger pour rester aux États-Unis.
Maître Ralph François est avocat au barreau de la Floride aux États-Unis.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était José de Morissin. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restons en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.